Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Xavier Caquineau, un expert en géologie qui a eu une très belle carrière. Fondateur de société, ce qui l'a d'ailleurs conduit à d'autres occupations. Ainsi, avec son épouse Marie-Claude, ils ont repris le chemin des études à l'Institut de théologie des arts à Paris, et ce pendant 3 ans. Appelé par Mgr Aubertin, aujourd'hui archevêque de Tours, il intervient comme conférencier à la cathédrale de Chartres. Également, il est membre de Chartres Sanctuaire du Monde. Mécène, soutenant l'œuvre du père Kim en Enjang dans un village de Savoie, proche de Saint-Gervais. D'ailleurs, tous deux se partagent entre l'Eure-et-Loire et la Savoie. Vous pouvez, chers auditeurs, les écouter dans la cathédrale où ils expliquent avec bonheur tout ce qui en fait la transcendance. Xavier Caquineau, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors c'est à l'UNESCO que nous nous sommes rencontrés, nous assistions à une conférence du Centre international de coopération et nous avons évoqué Chartres et bien sûr, j'ai voulu mieux connaître la cathédrale et plus particulièrement le transept. Alors d'abord, peut-être quelques mots sur la cathédrale de Chartres que vous connaissez vraiment par cœur, je dirais.
Non, c'est
et en disant le cœur dans toute son histoire.
Le cœur, oui. Par cœur, c'est presque trop. Parce que c'est un univers, c'est une encyclopédie, la cathédrale. Voilà.
Oui, mais vous êtes un peu cette encyclopédie de la cathédrale.
Non, il faut que je me laisse inspirer.
Oui. Alors justement, vous êtes, je le sais, très inspiré par le transept nord. Alors j'aimerais peut-être, alors quelques mots quand même sur la cathédrale de Chartres pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette cathédrale.
Quel univers qui existe depuis 1500 ans, 1500 ans,
oui.
Avec une relique déposée en 873 par le petit-fils de Charlemagne, qui avait reçu cette relique de l'impératrice Irène de Constantinople, donc autrement dit, des événements extraordinaires. La cathédrale gothique a été inaugurée, si je puis dire, par Saint-Louis, avec un roi Henri IV, le seul qui a été aussi sacré ici. Elle a été sauvée de multiples fois, alors qu'elle n'a pas, ce que l'on voit, c'est 90-95% de ce qu'elle a été construite aux restauration près, donc ouais. Quelque chose d'extraordinaire, voilà, et équipé du plus grand ensemble de vitraux au monde de l'époque gothique.
Voilà. Oui, donc ceux qui ne connaissent pas, je crois que maintenant ils auront à cœur de venir à Chartres.
D'en plus qu'elle est plus sombre mais claire.
Voilà, elle vient d'être restaurée. Non,
c'est
pas fini, mais alors maintenant on retrouve la cathédrale comme à sa naissance,
absolument.
On peut dire.
Ben oui, parce qu'elle n'a pas été repeinte, elle
voilà.
a été simplement nettoyée.
Elle a juste été nettoyée, et je dois dire que ça change tout. Ça change tout parce qu'on retrouve l'émotion que l'on avait, certainement, quand elle a été construite, parce que c'est étonnant même, la différence qu'on peut ressentir en entrant dans la cathédrale maintenant.
Oui, on est émerveillé, soulever.
Voilà, soulever, exactement. Mmh. Alors, vous avez voulu évoquer le transept. Que veut dire d'abord transept ?
Le transept, le nom d'origine, je ne sais pas exactement, c'est sans doute un nom latin, mais c'est surtout la partie de la cathédrale qui a un axe transversal, perpendiculaire, à l'axe principal qui va de l'ouest vers l'est, la plupart du temps dans les églises, mmh. axe qui est l'axe de la découverte, oui, de la découverte et de la rencontre avec Dieu, mmh. alors que l'axe de transept est un axe latéral qui évoque un petit peu les deux bras de la croix aussi, mmh. hein, où on peut imaginer le Christ avec ses bras étendus sur la croix, qui n'a qu'une envie, c'est de rassembler toute l'humanité. Eh bien, le transept de Chartres, eh bien, c'est l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que c'est hors du temps, puisqu'on ne sait pas quand ça a été créé. On essaie de remonter à l'origine. Aujourd'hui, les scientifiques pensent à 15 milliards d'années, alors qu'au moment où ça a été réalisé au Moyen-Âge, ce portail, eh bien, on pensait que c'était depuis 4 à 6 000 ans que Adam avait été créé,
ah oui.
vous voyez
oui, oui.
Donc toute une évolution bien en sûr. Même temps. Et puis, à l'autre bout, du côté sud, eh bien, c'est, on ne sait pas, la fin des temps, on ne connaît pas. On sait qu'il y en aura un ou une, mais on ne sait pas. Voilà. Donc c'est tout le temps, c'est l'alpha, et ça va de l'alpha à l'oméga. Voilà.
Donc on peut dire ça, que oui. le transept, on va de l'alpha à l'oméga.
Voilà. Et donc c'est un axe profondément humain.
Là, c'est l'homme plutôt.
Oui, oui. Et le projet de Dieu pour l'homme aussi. C'est surtout ça qui est évoqué.
Et qu'est-ce que vous entendez par là, le projet de Dieu pour l'homme ?
Bien, si vous voulez, le projet de Dieu a eu un projet pour l'homme. Enfin, mmh. il l'a créé. Et puis, il a créé tout un environnement. Et puis, il a donné ça à Adam et Ève. C'est peut-être mythique, si vous voulez, mmh. mais c'est quand même plein d'un enseignement très fort, qui, lui, il a envie de continuer, terminer la création avec l'homme et la femme. Et puis, malheureusement, ils se sont pris un peu au sérieux, ils n'ont pas fait très attention, et du coup, ils ont rompu cette relation. Et Dieu, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il a été obligé quand même d'exercer la protection de la vie, parce que c'est le maître, il est maître de la vie. Et à ce moment-là, il a fait toute sa vie, il essaie de faire alliance, ce qui n'a pas pu être fait avec Adam et Ève. Mmh. La première alliance, c'est avec Noé qui l'a fait. Toute la vie de l'humanité, eh bien, c'est Dieu qui sans cesse, cherche à refaire alliance avec l'homme pour reprendre le fil de l'histoire et d'aboutir au projet que Dieu avait pour l'humanité.
Oui.
Donc c'est l'histoire du transept.
Oui. Alors, comment peut-on lire ? Quels sont les sens que l'on peut donner à cette lecture ?
C'est compliqué parce que c'est tellement riche, mais ça fait rien. Au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas bêtes non plus. Mmh. Et ils avaient mis en place une façon de lire l'écriture, sachant que l'art est une écriture aussi.
Oui.
Un geste pareil que l'écriture. Donc d'abord, ils pensent à quatre sens de l'écriture, c'est-à-dire quatre niveaux de lecture. Premier niveau, le niveau historique, ce qu'aujourd'hui, je dirais, on a plutôt... on s'en contente.
Voilà. Oui, hein? En ce moment, c'est plutôt ce sens.
C'est ce qu'il y a là, on ne rappelle pas, et puis c'est tout, on ne va pas plus loin. Mais après, dans l'art, à ce moment-là, qui a ce pouvoir, eh bien, il a le pouvoir d'évoquer, de suggérer. Donc ça va être une lecture allégorique.
Oui.
C'est-à-dire les images dans la cathédrale n'ont pas été placées n'importe comment. Elles n'ont pas été placées pour boucher un trou, elles n'ont pas été placées non plus pour être belles. Elles
parlent, donner un sens.
Elles sont belles parce que c'est des grands artistes. Et un artiste, un véritable artiste, eh bien, il crée du beau. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il a ça dans le sang. Parce que Dieu est beau, l'homme est créé à l'image de Dieu. Eh bien, l'homme, il est appelé à faire pareil. Donc ça, c'est déjà une chose. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile. Cranach, par exemple, où il a fait, c'est dur à voir, mais c'est magnifique, c'est très beau, très très beau.
Oui, voilà. Ça c'est sûr.
Bien, donc ça c'est une donnée. Le troisième niveau de lecture, ça va être la lecture, disons, quel est le chemin à suivre pour aller vers le bonheur ? Ça c'est le projet de Dieu. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Dieu a donné la liberté, malheureusement Adam et Ève ne sont pas rendus compte, donc ils sont allés un peu trop loin pour exercer cette liberté, Mais si on fait n'importe quoi, eh bien, on aboutit aussi parfois à la perversion et au malheur. Donc c'est le dixième niveau de lecture. Et dans les images, eh bien, on voit des images. Je reviendrai peut-être dessus.
Ben oui, hein, on va reprendre ces quatre...
Oui, voilà. Et puis le dernier quatre... niveau, oui, c'est quel est le projet de Dieu finalement au bout. C'est quoi? À quoi on est appelé?
Alors on va reprendre chaque chemin.
D'accord.
Alors le premier, c'est le Moyen-Âge. Et donc, l'histoire, en quelque
c'est
sorte.
C'est l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer au portail nord.
Oui.
Première, le plus extérieur, la voussure de la création. Et on va voir, je dirais, Dieu qui parle 10 fois. C'est déjà un... Parce que dans...
Qui parle tout, 10 fois.
10 fois. Il dit 10 fois.
Et on le voit, ça, dans le portail nord.
Oui. Et il parle 10 fois. Et quand il dit la parole... Ça part de rien,
oui,
mais la parole crée un objet, quelque chose. Le soleil, la lune, les animaux, l'herbe, tout ça. Voilà. Et pour bien montrer que quand Dieu dit immédiatement « c'est », eh bien, il y a une double voussure. Dans la voussure, on n'a que Dieu,
oui,
le Créateur. Quoi. Mmh. Et puis, juste au même niveau, il parle, il dit « le grand luminaire, le petit luminaire », et on voit... représenté dans la voussure juste à côté et à la même hauteur l'objet créé. C'est pour expliquer que quand Dieu dit, c'est fait. C'est pas comme nous, hein, nous on met du temps.
Ah,
bon,
oui.
Voilà, par exemple, quelque chose. C'est plus de 15 milliards d'années. Ensuite, on va avoir le porche. Et là, on va avoir 10 personnages. Là, on va avoir encore un chiffre symbolique. 10, c'est une totalité, comme les doigts de la main. Et quand on est arrivé au bout des 10 doigts, on ne peut pas aller plus loin, ouais, on recommence, on garde une unité, on recommence. Autrement dit, c'est une totalité qui se renouvelle de génération en génération.
Oui.
Donc on a là des 10 personnages qui encadrent dans l'ébrasement du portail central, et avec prêtre, prophète et roi, ce qui rappelle une parole de Paul en disant que tout chrétien est prêtre, prophète et roi. Et je vous redirai après ce que ça veut dire, peut-être dans le concret.
Oui.
Parce que ça paraît un peu extraordinaire, oui, comme parole.
Qu'on ne se sent pas...
On se sent pas...
Père, prophète et... Non.
Ben non, mais quand même... enfin, pas quand même. je dirais... mais on verra ça,
bon,
quand on sera dans le sens peut-être, oui, allégorique. Voilà. Là, je reste...
On reste, oui.
Ensuite... Je continue quand même rapidement, on rentre à l'intérieur.
Non mais c'est très intéressant.
On rentre à l'intérieur et on a une rose,
oui,
une très grande rose de 13 mètres de diamètre, ça fait partie des plus grandes roses au monde. Eh bien, on voit à ce moment-là, au centre, toujours le Christ, mais là il est porté par Marie. Et puis tout autour, comme la vie qui continue sans arrêt, eh bien, on va avoir 12 rois et 12 prophètes. Et comme c'est en cercle, ça va tourner, on a l'impression que ça tourne, que la vie continue tout le temps.
Ça, et alors, le ce cercle, il n'y a pas de fin.
Voilà, ben oui. C'est des personnages historiques, hein, tous. Mm-hmm. Voilà, aussi bien
par exemple.
Ils sont tous, ben, y a David, il y a Salomon, il y a Jéroboam. Et puis, dessous, on va avoir des lancettes où on va avoir des grands, grands personnages avec 2 rois et 2 prêtres, Melchisédek et Aaron, David et Salomon, et puis dessous, on va avoir des personnages, mais on en parlera un peu plus loin,
oui,
hein, dans un autre niveau de lecture. Ensuite, il y a l'autel. Alors l'autel, j'en reparlerai un petit peu après, parce que c'est quelque chose qui est fondamental, mais en même temps, qui a cherché sa place au cours de l'histoire. Alors que c'est un point, c'est le centre, c'est la croisée du transept, c'est-à-dire les 2 axes dont je parlais tout à l'heure, qui se croisent, et l'autel se trouve ici à Chartres, exactement à cet endroit du croisement.
Voilà. Oui, donc déjà à cette époque, ils avaient vraiment le sens pour construire.
Oui, oui, parce que on s'est toujours posé la question au cours de l'histoire de l'Église, où placer l'autel.
Eh oui,
voilà,
c'est
parce
sûr.
Que c'est le lieu le plus sacré.
Oui, voilà, bien sûr.
Alors je continue pour.
Oui.
Après, on va passer. Alors, je dirais cette première partie, c'est l'histoire de souvent de 2000 ans. Et puis après, on va rentrer dans l'autre partie, dans le bras sud, qui va parler de l'après-venue du Christ. Et on va voir dans la rose l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps. Enfin, c'est pas la fin des temps, c'est le projet de Dieu, si vous voulez, de tous les hommes couronnés, attention, hein, ils sont couronnés, et ils portent un vase de parfum, c'est-à-dire on est pris... On est même un peu, je dirais, saoulés, si je puis dire.
Ivre.
Et puis, ils ont un instrument de musique, parce qu'il faut chanter la gloire. On est, quand on est très heureux, ben, on entend les rossignols qui chantent.
Ouais, ouais,
voilà. Et c'est un peu, c'est ça. Et puis, dessous, eh bien, on va avoir des grands personnages qui ont assumé, au prix de leur vie, la plupart du temps, eh bien, l'annonce.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Xavier Caclineau et nous évoquons le transept dans la cathédrale de Chartres. Vous avez d'abord évoqué ce premier sens historique du transept. Alors nous en arrivons au second sens, Xavier Caclineau.
Alors c'est le sens des images, l'allégorie. L'allégorie, c'est une représentation, l'expression d'une idée éventuellement par une figure qui est dotée d'attributs symboliques. Oui. Alors je vais prendre deux... En fait, l'allégorie fait signe pour celui qui regarde. Et je vais prendre deux images.
Qu'on trouve, oui.
Mais elles sont toutes comme ça.
Oui.
Mais c'est plutôt pour faire comprendre ce que c'est que cette lecture.
Non, mais je veux dire que nos amis qui vont aller maintenant dans la cathédrale de Chartres, ils vont être dans le transept, ils vont chercher.
Oui.
Donc il faut qu'on les aide aujourd'hui.
Déjà, au portail nord,
oui.
La double voussure qui se voit très bien. Il ne faut pas attraper le torticolis, mais on voit très bien. Et quand Adam mange la pomme, eh bien, il est encore au niveau de la voussure de Dieu, c'est-à-dire il est ami de Dieu, donc il vit en symbiose avec lui. Et à partir du moment où il a mangé la pomme, on le trouve dans la voussure des créés, des êtres créés. C'est-à-dire au même niveau que la création. Donc il y a une rupture de relation avec Dieu. Mais Dieu, à la fin, là ça se termine par la bénédiction de Dieu, que l'on voit dans multiples endroits dans la cathédrale. Béné, c'est bien. Disséré, c'est dire. C'est-à-dire, malgré toutes les fautes que tu peux faire, moi je me réjouis que tu portes la vie et je dis du bien de toi dès que je te vois, qui que tu sois et quoi que tu aies fait auparavant.
C'est quand même réconfortant.
Oui, c'est de l'espérance. Mmh. Voilà une image, par exemple, allégorique. Et pour faire sentir ça, eh bien, il a fallu montrer les images d'une certaine manière, c'est-à-dire l'ami de Dieu, il est dans la voussure de Dieu, et quand il a rompu ce contrat, qu'il n'a pas fait d'ailleurs, Adam, c'est Noé qui a fait le premier contrat, eh bien, il change de place. Voilà.
Ça veut dire que les sculpteurs étaient vraiment des gens très éclairés.
Ah oui, tout à fait, mais aidés aussi par les chanoines qui lui disaient « Écoute, tu vas inventer quelque chose pour exprimer ça. »
Ah oui, c'est ce que leur... on a des écrits là-dessus.
Ah ben, les chanoines disent « Faut que tu montres ça. » Et comme à Gucci, la croix, on lui a dit « Ben voilà, on vous commande une croix, mais on voudrait qu'elle n'empêche pas de voir, on voudrait qu'elle soit en coordination, disons... en cohérence avec ce qu'exprime la cathédrale, qui est toute la recherche des ténèbres vers la lumière. Donc, qu'est-ce qu'a cherché Gucci ? Ben, il a fait une croix de lumière, par exemple.
Voilà.
Vous voyez, un artiste, c'est ça.
C'est
un véritable artiste, c'est un être qui a l'imagination et la capacité du savoir-faire pour traduire ça dans une œuvre que tout le monde va accueillir, est capable d'accueillir.
Et capable de comprendre aussi.
Enfin, de se dire que ça lui va.
Heureusement, il y a des gens qui aident à comprendre dont vous êtes.
Voilà, par exemple, ça c'est une première image.
Oui.
Il y a une deuxième image dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les 10 statues, prêtres, prophètes et rois. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue pratique ? C'est très simple finalement. Je dirais être prêtre, en fait, il est là pour chanter et offrir la louange de la création à Dieu. Qu'est-ce qui compte ? C'est « à ». Je dirais offrir à Dieu. C'est ça être prêtre. Ensuite, être prophète, c'est pour témoigner, parler au monde de Dieu. Donc c'est le Dieu qui compte.
Oui.
Voilà. Et c'est comme quand on a une très grande joie, une naissance par exemple, on ne peut pas s'empêcher de ne pas le dire.
Oui,
eux, ce qu'ils ont vécu, et quand on voit dans les évangiles ce qui s'est passé, c'était peut-être douloureux. Enfin, quand même, ils devaient être un peu bouleversés. D'ailleurs, on le voit dans les images, je vais vous le dire, c'est la dernière image qu'il y a au portail sud, hein, où on voit Jésus qui a une tête et les 12 apôtres qui ont la même tête que Jésus. Autrement dit, ils sont christifiés. Vous vous rendez compte? Ben voilà une allégorie. Et rien que de voir ça, on se dit, ils ont été transformés, vraiment.
Ils ont été transfigurés. Et nous, on peut l'être aussi.
Mais bien sûr, c'est le projet de Dieu, que tout être humain soit transfiguré. Alors nous, ça nous paraît absolument extraordinaire.
Oui,
et il y a une image dans la cathédrale, dans les verrières romanes, où on voit la transfiguration. Vous savez, quand on rencontre une personne qui a des grandes douleurs, qui a le visage, il regarde ses pieds. Il suffit de s'approcher d'elle, de la saluer, de lui mettre la main sur le bras, à la limite, et de lui dire « Comment allez-vous ?» Vous voyez tout de suite son visage qui se transfigure. Nous, on a cette possibilité-là. C'est notre niveau humain. Mais le niveau de Dieu, c'est incroyable, quoi. C'est la transfiguration, mais il faut y croire. Et le projet de Dieu, s'il a fait les hommes et les femmes à son image, il n'a qu'un désir. C'est que le jour de la transfiguration ou quand il revient, tous les êtres humains soient comme Jésus le jour de la transfiguration. C'est ça le projet de Dieu. C'est fou.
Oui, exactement.
Alors, ça c'est de l'allégorie.
Voilà.
Voilà, vous comprenez
alors,
ça.
Très bien. Alors le troisième niveau.
Ah, le troisième niveau, c'est le niveau du chemin à suivre. Alors si vous voulez, quand on voit la mine défigurée de Adam, hein, qui mange sa pomme et qui se tient là à la gorge et qui se dit « Oh là là, ça passe pas facilement hein, », et qui devient tout triste après. Et puis même dans l'image, je dirais, de notre culture d'aujourd'hui, où le travail n'est pas toujours mis au niveau qu'il mérite, et qu'on le voit bêcher, et puis Ève, on la voit filer sa quenouille, et on se dit « s'ils veulent le bonheur, il vaudrait mieux rester amis de Dieu, quoi. » Voilà, vous voyez. Donc, il y a des chemins à suivre. Quand on est dans la rose, également, et que l'on voit dans les lancettes de la rose nord, en dessous des grands personnages, hein, où on voit Pharaon qui tombe de son cheval sous les pieds d'Aaron, et puis que l'on voit Jéroboam qui est en train de rendre hommage à des idoles, Nabucodonosor, pareil, ou bien Saül qui se transperce avec son épée, c'est-à-dire il se suicide, on se dit que ce n'est pas le chemin de bonheur, ça. Il vaut mieux suivre ce que David, le roi David, ou le roi Salomon, même s'ils ont fait des bêtises, ou Aaron, Melchisédek, il vaut mieux suivre ce chemin, être inspiré par ce chemin. Et quand on voit les images de tous les prophètes et les rois de la rose, ils ont tous le regard porté. Voilà. Et alors, si vous voulez, ce chemin, vous savez, Jésus, quand il a vu, quand il a été baptisé, il y a des êtres humains qui sont venus le voir en disant « Où crèches-tu? Où dors-tu » Et qu'est-ce qu'il répond? Viens et vois. Vous voyez, c'est tout simple, c'est deux mots. Qu'est-ce que les artistes ont mis dans la cathédrale, aussi bien dans la rose nord que dans la rose sud? Vous voyez des êtres qui ont les yeux branchés, mais véritablement sur le centre. Et au centre, qui on voit? Marie et Jésus dans la rose nord, Jésus ressuscité dans la rose sud. Et si vous voyez les grands prophètes qui ont les yeux tournés véritablement vers Marie, Jésus, ou bien tous les 24 vieillards, qui est un chiffre, ils ont les yeux, on a l'impression qu'ils ont les yeux injectés. Ils voient, ils regardent, et rien que de voir, et Dieu sait, si vous voulez, l'image est forte, et dans la vie, et bien souvent, on prend ses repères par rapport à quelqu'un que l'on voit, et dont on va suivre le chemin, parce que elle humanise. Voilà. Donc, c'est ça, finalement, la lecture, je dirais, alors d'un mot très savant, je ne vais pas vous le dire, mais c'est un mot très, très savant, voilà, et qui est ce chemin à suivre. Voilà.
Oui.
Et il faudrait continuer, mais voilà, en particulier, je n'ai pas eu le temps de parler de l'hôtel, mais l'hôtel...
Oui, mais parlez-en, oui. On a encore un peu de temps.
L'autel, d'abord, c'est la croisée des deux axes. L'axe, je dirais, divin, ouest-est, la rencontre de Dieu, le partage, parce que l'autel, c'est comme une table de partage, hein, qui rassemble à la fois, je dirais, qui rappelle la scène, et puis qui rappelle aussi également le sacrifice de la croix. D'ailleurs, dans la croix de Guji, le centre est rouge.
Oui.
Bon, c'est à la fois l'amour, mais c'est à la fois, je dirais, le sacrifice. Hein. Oui. Voilà, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas être heureux si on dénie tout le mal et toute la souffrance. Ce n'est pas possible. La souffrance, elle est faite pour la compassion. Et quand la compassion est manifestée, à ce moment-là, ça redonne vie.
C'est-à-dire, alors, compassion, c'est souffrir avec.
C'est souffrir avec. Ce que disons, le bouddhisme connaît.
Connaît aussi.
On a à apprendre là, ouais. De ce côté-là. Ouais. Voilà. Donc cet autel, il est là. Et il est là, c'est-à-dire il permet, dans sa place, je dirais, de passer, disons, du transept, de la partie, du bras nord du transept, qui parle de l'Ancien Testament, et qui se termine par le vitrail de l'enfant prodigue, et qui prépare le retour de l'homme à Dieu, voilà, qui lui permet à ce moment-là, vous savez, à l'autel, pendant la messe, on dit, eh bien, avant d'aller communier, réconcilie-toi avec ton prochain. Il est placé là. Je me suis toujours demandé pourquoi ce vitrail était placé là. Il pourrait être placé ailleurs dans la cathédrale. Pourquoi il est là, juste à la fin du bras nord du transept, qui parle de l'Ancien Testament et qui donne juste après, qui débouche véritablement à l'autel, à la croisée de ces deux axes de la rencontre de Dieu.
C'est la réconciliation.
Ben oui, c'est ça. Et il dit, je ne vais pas discuter, je ne vais pas chercher à avoir raison, je suis ce que je suis, c'est tout, tout simple. Voilà. Et puis lui, celui qui est le miséricordieux, il est tellement réjoui de voir la vie devant lui que lui, il ne pense même pas à toutes les bêtises que son fils a fait.
Alors on en arrive à la fin des temps.
Oui, la fin des temps, c'est représenté dans deux transepts,
oui.
Les tympans, les deux tympans. Donc il y a un tympan, ils se parlent tous les deux.
Oui, il y a une réponse de l'un à l'autre.
Oui, ils sont bâtis de la même manière. D'ailleurs, si vous voulez, vous savez, quand on regarde le portail nord et le portail sud, vous avez le même nombre de personnages, 10, 24, 24, enfin oui. Tout ça c'est des codes, si vous voulez,
oui,
de lecture.
Oui.
Quoi. Et là, eh bien, premièrement, pour terminer l'Ancien Testament, eh bien, on va avoir un tympan qui montre le couronnement de la Vierge. Marie, c'est la mère de Dieu, c'est la mère de l'humanité. Et elle est couronnée, et ça veut dire qu'elle est la première de l'humanité, mais que le projet de Dieu, c'est de couronner toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'on voit dans la rose sud?
Oui, oui.
Eh bien, on voit 24 personnages qui représentent toute l'humanité. C'est un code, 24. Mm-hmm. Eh bien, ils sont tous couronnés. Bon, voilà le projet de Dieu, d'une part.
Oui.
Alors ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est, alors à ce moment-là, la fin le jugement dernier.
Oui.
Le jugement dernier, ça fait peur à tout le monde. Mais quand on lit dans l'Évangile que le bon larron, on l'appelle bon larron, mais il avait fait beaucoup de bêtises avant, mais qui se tourne vers Jésus parce qu'il est touché par le fait que Jésus ait donné sa vie alors qu'il ne méritait pas de monter sur la croix, mais qu'il la donne simplement parce qu'il a voulu être fidèle à ce qu'il était. Eh bien, il dit à Jésus, pense à moi le jour, et Jésus répond, tu seras avec moi ce soir au paradis.
Eh
voilà
bien,
le jugement dernier.
Et un grand merci, Xavier Kakino. Nous n'avons pas assez de temps. Mes chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, un grand merci, Xavier Kakino.